Et donc, disons qu'il y a l'angoisse. Je disais, il y a de l'ambiance. Reste à savoir si c'est une ambiance lourde de menaces ou une ambiance de joie, de libération, de bonne nouvelle, quoi. Les textes que nous lisons dimanche après dimanche nous amènent parfois dans des contrées où nous n'aurions pas choisi d'aller. Des textes qui nous déroutent, qui nous choquent parfois. Celui-ci, par exemple, qui ressemble fort à un règlement de compte sur le mode de la rétribution. Et pourtant, je crois qu'il y a une bonne nouvelle à recevoir de ce texte. D'abord, un petit mot du contexte. Le thème du jugement dernier est un thème fondamental dans l'évangile de Matthieu, plus que dans Marc et Luc, et même plus que dans l'évangile de Jean ou dans les lettres de Paul. Il porte la marque de plusieurs siècles de tradition vétérotestamentaire, et cela n'a rien d'étonnant quand on sait à qui Matthieu s'adressait. Il utilise une imagerie apocalyptique qui parle à ses auditeurs. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Ça commence en fait très classique. Sauf qu'il y a une première surprise. C'est le Fils de l'homme, c'est Jésus qui sera le juge. Le Fils à qui le Père a tout remis. Dans la suite de l'histoire, car il s'agit d'une histoire, Matthieu le nomme le roi. Ceux qui sont là le nomment Seigneur. En fait, Matthieu a regroupé dans les chapitres 24 et 25 une quantité de récits, de catastrophes et de paraboles sur la fin des temps. Juste avant le passage que nous venons de lire, on trouve la parabole dite des talents, encore avant celle du serviteur fidèle et du serviteur infidèle, encore avant une histoire d'horreur abominable et de cataclysme intergalactique. Replacé dans ce contexte, le récit du jugement dernier prend même un caractère un peu familial et bon enfant. Je veux dire par là qu'il parle de choses plus proches. Encore un mot avant de passer au fond de la question. C'est Daniel Marguerat qui remarque que l'identification du juge eschatologique avec les hommes en détresse, affamés, nus, étrangers, exclus, n'a pas d'équivalence, ni dans le judaïsme, ni dans les religions du monde ambiant. Et qu'on a peut-être là une prédication originale de Jésus. Et cette prédication dit que l'humain sera jugé sur sa relation au Christ. Mais pas forcément le Christ des églises, pas le Christ des institutions, pas forcément le Christ des doctrines. Plutôt le Christ identifié aux hommes tombés dans la misère, aux hommes sans nourriture, sans vêtements, sans insertion sociale, sans refuge, sans liberté. Les hommes rejetés. Surprise, surprise. Plus tellement pour nous qui entendons ces textes depuis des années, et des années, sans peut-être les prendre vraiment au sérieux. Mais même après des siècles de lecture, d'interprétation en tout genre, cette révélation garde sa charge explosive. Plus que la lune et les étoiles qui dégringolent, c'est notre image de Dieu qui dégringole. L'image tellement rassurante d'un Dieu puissant qui prendrait en charge toute notre vie, tous les problèmes du monde, en anéantissant au passage notre liberté. Mais nous sommes prêts à tous les sacrifices pour avoir un Dieu à la hauteur. Quelle chute quand même. Dieu, dans un homme dont la vie et l'humanité même sont livrées à autrui, un Dieu déclassé. Et comme vous avez lu la suite de l'Évangile, vous savez que les trois chapitres suivants, et ce sont les trois derniers de Matthieu, sont le récit de la passion de Jésus et de sa résurrection. Résurrection entendue non pas comme une revanche, mais plutôt comme la signature de Dieu sur la vie de Jésus. Dieu qui signe et qui dit, celui-là, qui est allé jusqu'au bout de l'amour, celui-là est bien mon fils, vivant de ma vie. Le juste parmi les justes, méprisé, insulté, condamné, exécuté. Nous, si cela nous arrivait, on pourrait se dire que peut-être on l'a mérité. Mais lui, ou alors il est maso. Il faut être maso pour pousser l'amour et la solidarité jusqu'à ce point. Il y a quelque chose de fou dans ce comportement. Et si, en fait, c'était une confiance immense en ce Dieu qu'il appelle son Père. Immense la confiance qui dépasse le sentiment d'extrême abandon ressenti par Jésus dans l'agonie. Sa solidarité avec nous est allée jusque dans ce cri d'abandon devant le silence incompréhensible de Dieu. Bon, d'accord. Mais Jésus, c'est Jésus, et nous, c'est nous. Le berger à sa place, et nous à la nôtre, et les brebis seront bien gardées. L'ennui, ou le bonheur, c'est qu'il nous appelle à faire pareil. Vous aussi, vous ferez les choses que je fais, et même de plus grandes. Car l'Esprit de Dieu vous donnera sa force et son courage. Cela éclaire pour moi la dernière phrase de l'Évangile de Matthieu. Je vous la lis toujours dans la traduction en français courant. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, raisonneuse, comme disait ma grand-mère, je rétorque, c'est qui avec nous? Le Père, ou Jésus, ou l'Esprit? C'est vrai quoi, on ne sait plus qui est qui. Eh bien, disons que là aussi, il y a une vraie belle solidarité. Revenons au texte d'aujourd'hui. Il nous dévoile, et c'est l'étymologie du mot Apocalypse, il nous dévoile un peu du secret de la présence de Dieu. La présence de Jésus ressuscité. Dieu est dans l'humain en détresse. On peut torpiller le texte comme on veut. Certains ont dit que les petits, ceux qui sont affamés, nus, rejetés, les petits en question étaient les disciples envoyés en mission. Parce que dans d'autres textes, il est dit que celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits à cause de mon nom, c'est à moi, Jésus, qui le donne. Pourquoi pas? Mais ici, il me semble que c'est l'humanité tout entière qui est questionnée sur son humanité, justement. C'est une question d'humanité. Vous connaissez la doctrine chrétienne orthodoxe, et j'espère que je ne caricature pas. Dieu a mis dans l'homme une étincelle divine pour qu'en quelque sorte il devienne Dieu, il participe à la gloire de Dieu. Mais moi je me retrouve mieux dans la position réformée qui dit que Dieu s'est fait homme pour que nous puissions devenir pleinement humains. Je mets devant toi la vie, la mort. Choisis la vie pour que tu vives. C'est écrit dans Deutéronome. Eh bien, il me semble que le texte d'aujourd'hui est de la même veine, en plus précis peut-être. La vie. La vie, c'est aller vers l'autre en détresse. L'autre enfermé dans le désespoir, l'alcool, l'angoisse, mais aussi l'autosuffisance. Enfermé aussi dans l'ennui. Aller vers l'autre, c'est la vie, comme on voudrait aller vers son Dieu. Et puis aussi, laisser l'autre venir vers nous, nous toucher, comme Dieu attend de le faire. Et puis aussi, prendre soin de cette part mutilée de nous, cette part inapte à l'amour. Et puis aussi, mais là, l'imagination est au pouvoir. L'Esprit de Dieu, si on le lui demande, vient à notre aide avec des trésors d'imagination, de tendresse, d'humour et de sens pratique. La mort. La mort, c'est ne pas avoir besoin de l'autre. Le remplacer par un savoir sur le bien et le mal. Choisis la vie, dit Dieu, afin que tu vives. Il y a une autre ressemblance entre le texte du Deutéronome et le texte du jugement dernier. Ce sont des textes pour vivre maintenant. Des textes, bien sûr, qui parlent du monde à venir, mais d'un monde qui est commencé maintenant. On trouve cela beaucoup chez Paul ou chez Jean. Vous n'êtes plus soumis au jugement, je dirais à la menace du jugement. Car en Christ, vous êtes passé de la mort à la vie. Nous le voyons bien, que celui, ça peut être l'autre, mais ça peut être surtout nous-mêmes, celui qui se coupe des autres, qui est coupé des autres, est déjà dans la mort sans fin. Et que celui qui se laisse tirer hors de son trou par la main du Seigneur, incognito la plupart du temps, celui-là connaît déjà la vie qui a goût d'éternité. Voilà la bonne nouvelle que Matthieu nous a mis en scène à la façon apocalyptique, c'est sa façon. Notre Dieu est un Dieu de vie et son plus grand bonheur est que nous vivions de cette vie partagée. Amen.